C'est un homme qui nous fait beaucoup de bien. Jésus sauve quand on est dans la détresse, dans des situations difficiles. Et vraiment, je l'ai expérimenté plus d'une fois. Le nom de Jésus, surtout quand on a Jésus dans notre cœur, on a une relation personnelle avec Dieu et on peut lui faire part de toutes nos souffrances. Et seul ce nom de Jésus nous réconforte et nous assure la paix, la joie de nouveau, une espèce de confiance qu'on met dans ce nom, et c'est le seul qui puisse être capable de nous sauver, le nom de Jésus.
Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier. Le sujet, c'est qui est le Dieu de la Bible? Qui est le Dieu de la Bible? Alors, vous pouvez faire ça sur le plan théologique. Alors, je vais vous expliquer qui est le Dieu de la Bible, comme si c'était un sujet d'étude, comme si on décrivait un insecte dans un musée ou un dinosaure. Mais parler du Dieu de la Bible, ce n'est pas parler de quelque chose. Ce n'est pas un objet de curiosité. On n'est pas dans un musée. Le Dieu de la Bible, c'est quelqu'un, c'est une personne. Et si un jour quelqu'un se levait et disait « J'aimerais vous parler » et puis mentionner votre nom, « J'aimerais vous parler aujourd'hui d'Arthur »,« J'aimerais vous parler d'Asti », Vous seriez là pour dire, je veux entendre ce qu'on dit à mon sujet. Est-ce qu'on m'a bien présenté? Est-ce qu'on a parlé de mes qualités? Est-ce qu'on m'a présenté honnêtement? Est-ce qu'on a fait trop de compliments? Que c'est pas vrai. Est-ce qu'on m'a insulté? C'est pas vrai non plus. Mais on voudrait, si quelqu'un parle de nous, qu'il en parle avec justesse. Et de la même manière, Dieu est très attentif aussi à ce qu'on dit à son sujet. Parce que, comment dire ça, Dieu souffre d'un mauvais témoignage. Quand les gens parlent de Dieu, ils disent « Oui, oh Dieu, j'ai pas le temps de m'occuper du problème de Dieu. » Ou alors ils disent « Oui, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tout ce bazar dans la terre ?»« Dieu, écoutez, moi j'ai des questions à lui poser, c'est pas lui qui va m'en poser, c'est moi qui lui en poser. » Les gens sont très, parfois vraiment insultants quand ils parlent de Dieu. Mais si on pose la question « Est-ce que vous connaissez Dieu ?» Oh ben non. Donc on va mal parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des multitudes de gens qui connaissent Dieu personnellement, dont je suis. Mais ça n'a rien d'extraordinaire de pouvoir dire je connais Dieu, parce que Dieu s'est présenté. Dieu s'est présenté à nous. Si on pouvait connaître une personne comme il faut, c'est bien la personne de Dieu. Après tout, qui d'entre nous a écrit une lettre de 1200 pages pour se présenter? Hein? Personne. Dieu lui l'a fait. Dans la Bible, Dieu présente qui il est. Donc, si les gens ne veulent pas savoir qui est le Dieu de la Bible, si les gens veulent se moquer de lui, si les gens veulent ne pas le connaître, c'est leur choix. On n'est pas obligé de connaître Dieu. Dieu n'oblige personne à le connaître aujourd'hui. Un jour, tous on va le connaître. Mais il se présente à nous et il veut que nous le connaissions. Et lui nous connaît. Il vous connaît et il veut que vous le connaissiez aussi. Un jour, avant notre mariage, mon épouse et moi, on aimait le Seigneur tous les deux, on voulait servir le Seigneur, et un jour on s'est dit, alors on était un peu de temps en temps affectueux, je t'aime tendrement, mais j'aime Dieu plus que toi. Et l'autre, au lieu de se fâcher, dit, mais c'est pareil pour moi. Alors on s'est dit, mais si on aime Dieu plus que son propre conjoint, ben c'est qu'on n'aime pas très bien son propre conjoint. Non, en fait, si on aime en Dieu plus que son conjoint, on arrive à mieux l'aimer. On aime en Dieu plus que ses voisins, plus que ses enfants, on arrive à mieux les aimer, parce qu'on les aime avec l'amour de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Il a dit, vous aimerez l'Éternel, vous adorerez l'Éternel. Il n'a pas dit ça parce qu'il est égoïste. Il a dit ça parce que c'est la seule manière pour nous d'être vraiment heureux et épanouis que d'aimer Dieu, de vouloir connaître Dieu, de vivre avec lui, de lui obéir, de le respecter, de l'honorer. C'est la clé à une vie épanouie et heureuse. Quelles que soient nos épreuves, quand on aime Dieu, on est encouragé, on est béni, on est porté, quelle que soit notre difficulté. Nous connaissons et avons connu des gens qui ont des maladies terribles, cloués dans un lit. Pas possible de bouger, mais ils aiment Dieu. Leur vie, quand les gens viennent les voir, ils en repartent, mais complètement transformés. Mais cette personne est beaucoup plus heureuse que moi. Et elle souffre dans un lit. Pour d'où vient ce bonheur? Parce que cette personne aime Dieu profondément. Et donc, pour aimer Dieu, il faut le connaître. Il y a, bien sûr, un philosophe français qui a dit « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. » C'est-à-dire que l'homme, il dit « Oh, pour moi, Dieu, il est comme ci, comme ça. On a dit Dieu, c'est comme un vieux grand-père avec une grande barbe blanche qui a perdu la moitié de sa mémoire. Alors, il ne voit plus très bien, mais il est tellement vieux. Mais bon, quand le dernier jour viendra, il dira, ah, mes enfants, allez-y, vous êtes tous gentils. Entrez dans ma maison, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas du tout le Dieu que la Bible présente. Un autre dit, oui, Dieu est un juge sévère, il ne sourit jamais, il est sur un trône, puis il vous regarde et puis il vous tape quand vous êtes un peu de mauvais côté, c'est le père fouettard. Ce n'est pas du tout le Dieu qui se présente dans la Bible. Ça, c'est des images que les gens ont fait de Dieu. Mais ça ne représente pas Dieu. Nous, on n'apprécierait pas si quelqu'un de nos voisins commençait à répandre des calomnies sur nous, que lorsqu'on sortirait de notre logement et qu'on se promènerait dans la rue, tout le monde nous fuit comme la peste, en disant, après tout ce qu'on m'a dit sur vous, je ne veux plus vous voir, vous êtes un pestiféré, vous êtes un criminel, mais vous êtes horrible, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas en prison? Comment ça se fait que vous n'êtes pas mort? On devrait vous mettre à mort des vermines comme vous. Vous diriez, mais vous parlez de qui? Mais de vous! Mais pourquoi, après tout ce qu'on m'a dit sur vous? Ce serait terrible, n'est-ce pas? On détruirait notre réputation. C'est un peu ce qu'on a fait à Dieu. On a tué au nom de Dieu. On a torturé les gens au nom de Dieu. Pendant des siècles. Alors les gens qui le savent, ils disent, ah ben Dieu, si c'est lui, si Dieu il fait ça, alors moi je ne veux pas le connaître. Et ils ont raison! Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Donc, Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Alors, l'homme, il a fait plusieurs idées sur Dieu. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'humanisme. Vous avez entendu parler de ce mot, l'humanisme? Je suis un humaniste. Ça veut dire quoi? Ben, humain, je crois en l'homme. L'homme, il est Dieu. Les humanistes disent, oh, vous savez, les hommes sont naturellement bons. L'homme, laissé à lui-même, il est très bon. C'est la société qui l'a corrompu. C'est la société qui l'a rendu mauvais. C'est Jean-Jacques Rousseau, le philosophe français, qui a dit « L'homme est naturellement bon et la société l'a rendu mauvais. » Et savez-vous ce qu'on a fait en France? Et ça, vous l'avez tous vu dans les quartiers. On a dit « Oui, mais là-bas, c'est la zone. » Les délinquants, les gens qui vont vendre la drogue. Mais vous savez pourquoi ils sont méchants dans ce quartier? Parce que leurs bâtiments sont en mauvais état. Leurs fenêtres sont défoncées. On a brûlé leurs sonnettes, vous savez, à la porte. Et tout ça, on va réhabiliter la cité. On va refaire tout le bâtiment. On va refaire les appartements. On va rendre la cité jolie. Et comme ça, les gens seront tellement heureux de vivre dans un bel appartement, ils deviendront automatiquement gentils. Ils sont méchants parce que leur logement est moche. Quand leur logement sera joli, ils deviendront gentils. Est-ce que ça marche? Non. Ça ne change pas les gens. L'homme n'est pas naturellement bon. Et l'homme n'est pas Dieu. Quand on dit l'homme est Dieu, on prend la place de Dieu. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Un grand philosophe français. Mais il a dit, et vraiment beaucoup de choses qu'il a dit étaient fausses et mauvaises, hein, franchement. Mais il a dit une chose de vraie. Il a dit, je sais que la vérité n'existe pas en moi. Ah, au moins, il a eu le courage de dire ça. L'honnêteté. Je sais que la vérité n'existe pas en moi. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Il dit, je suis moi-même le chemin, la vérité et la vie. Voilà un philosophe qui dit, la vérité n'existe pas en moi, et Jésus qui dit, je suis la vérité. On voit bien que l'homme n'est pas Dieu. Même le philosophe n'est pas Dieu. Jésus a dit, si le monde vous hait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus nous a dit, je suis Dieu, et à cause de ça, le monde va me haïr. Pourquoi le monde est Jésus? C'est parce que Jésus est vraiment Dieu, et l'homme n'aime pas Dieu. Quand on dit, l'homme et Dieu. Ça veut dire qu'on ne veut pas de Dieu dans notre vie. On veut être notre propre Dieu. Et donc, c'est l'humanisme. Est-ce que vous pensez que le monde va de mieux en mieux? Vous savez, quand on a fondé l'ONU, les Nations Unies, ils ont dit, maintenant, on avait vécu deux guerres mondiales en Europe en 45 ans, la première guerre et la deuxième guerre mondiale, avec l'ONU, on va tous être unis, les Nations Unies, et on va avoir un monde de paix. Enfin, nous sommes arrivés au point que nous allons pouvoir créer un monde de paix. Ça fait 70 ans que les Nations Unies existent. Est-ce que le monde est en paix? Et est-ce que les nations sont unies? Non. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable d'amener la paix. Donc l'homme n'est pas Dieu. Il y a un groupe, et vous les avez peut-être rencontrés, et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est un groupe qui s'appelle les Mormons. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'ils pensent de Dieu. Eux, ils disent Adam est Dieu. Adam est Dieu. C'est curieux, oui, oui. Vous connaissez l'histoire d'Adam? Adam et Ève dans la Bible? Adam est le premier homme, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden. Alors, ils ont lu la Bible. Mais le fondateur de leur religion, de cette église, M. Smith, il avait aussi la capacité de raconter des histoires. Il racontait des histoires absolument incroyables. C'était de la science-fiction avant l'heure. Et il a dans une de ses histoires, il a dit, pas très loin de chez lui, aux États-Unis, c'était aux États-Unis il y a 150 ans, derrière chez lui, il y avait une montagne, et dans cette montagne, il a creusé, il y avait des plaques en or. Des plaques en or dans la montagne. Alors, à côté, il y avait une loupe. C'est des histoires incroyables. Une loupe. Et il a pris la loupe, il a regardé sur les plaques parce qu'il y avait une écriture qu'on n'arrivait pas à lire. Il dit que c'était une écriture égyptienne qu'il ne savait pas lire. Mais avec la loupe, ça le traduisait en anglais. Vous imaginez ça? Et il pouvait lire les plaques. Et il a bâti son histoire à partir de ça. Alors, personne n'a jamais vu les plaques à part lui. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui n'est pas vraiment crédible. Mais à partir de là, il a écrit trois livres. Et dans les livres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que Dieu était, nous sommes. Et ce qu'est Dieu un jour, nous le deviendrons. Autrement, il a dit, un jour, nous deviendrons Dieu. Parce que Adam, le premier homme, était Dieu. Il est devenu Dieu et nous allons devenir Dieu. Si nous sommes, bien sûr, dans son Église. Est-ce que ça correspond à la vérité de la Bible? Non. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit que Dieu a pris de la poussière de la terre, il a façonné un homme, et puis lui a donné un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Nous sommes des gens vivants, et nous pensons à l'éternité. Et nous avons une conscience. Et tout ça nous a été donné parce que Dieu nous a donné son souffle. Mais ça ne fait pas de nous un Dieu. Ça fait de nous des hommes. Et celui qui nous a créés, c'est Dieu. Donc, une créature ne peut jamais devenir son créateur. Notre ami David, il a fait des photographies qui sont là, magnifiques photographies, mais ces photographies ne peuvent jamais devenir en photographe. Hein. Ces images ne peuvent jamais prendre un appareil photo et faire à leur tour des photos. On peut dresser un cheval ou un lion pour le cirque, mais le lion ne peut jamais devenir l'artiste qui l'a dressé. On ne peut jamais devenir celui qui nous a créé. Vous pouvez faire un gâteau au chocolat pour un anniversaire, mais le gâteau de chocolat ne peut jamais devenir vous. Hein? Le gâteau de chocolat ne peut jamais faire un autre gâteau de chocolat. Il faut que ce soit toujours la personne qui le fasse. Donc Dieu a créé l'homme. L'homme ne peut pas devenir Dieu. L'homme ne peut être qu'un homme. Donc, Adam n'est pas Dieu. Et nous ne deviendrons pas Dieu. Et Dieu n'a pas commencé comme un homme. Il a toujours été Dieu. Il a toujours été tout-puissant. Et la Bible dit aussi, il n'y a pas de juste parmi les hommes. Même pas un seul. Il n'y a pas un seul homme qui soit juste. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont péchés. Non seulement on n'est pas Dieu, mais on n'est même pas parfait. On a tous péché, on a fait le mal des milliers de fois. Donc on n'est vraiment pas en chemin pour devenir Dieu. Mais nous avons été créés par Dieu. Alors, une autre idée que les gens véhiculent parfois par rapport à Dieu, ils disent... Ils disent Dieu est divisé en plusieurs parties. Alors, par exemple, je pense à un autre groupe de personnes qui est très zélé, qui va un peu partout, qui d'ailleurs sont des gens très sympathiques, qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Vous avez peut-être rencontré un jour les témoins de Jéhovah. Alors, ils sont très zélés, on ne peut pas trop les critiquer pour ça. Ils sont très bien mis, ils sont polis et tout ça. Mais et le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, c'est qui est Dieu pour eux? Savez-vous que pour les témoins de Jéhovah, il y a un seul Dieu, c'est Dieu le Père. Alors, Dieu le Père, c'est Dieu. Et il dit, Dieu le Père, la première personne qu'il a créée, c'est Dieu le Fils. Donc, Dieu le Fils a été créé par Dieu le Père. Et donc, Dieu le Fils, il est Dieu, mais avec un petit dé. Et Dieu le Père est Dieu avec un grand D. Voyez ? Et le Saint-Esprit, c'est un vent, c'est une force, ce n'est pas une personne. Peut-être. Que dit la Bible ? La Bible dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est trois personnes, mais qui sont entièrement, totalement Dieu. C'est comme un peu si on disait, mon épouse et moi, et puis nous avons des enfants, et bien, nous sommes une famille, mais moi, le père, j'ai créé ma femme, et puis nos enfants, c'est des vents. C'est pas des êtres, c'est juste des vents qui soufflent. Ah, mais ça, c'est notre fille aînée qui souffle, c'est un vent. Tiens, c'est notre deuxième fils qui souffle, c'est un autre vent. Il y a un problème, n'est-ce pas? Alors on dit, on est la famille. Oui, mais on n'est pas de la même essence. Nos fils sont des vents, ma femme, je l'ai créée, et moi, je suis le créateur. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on prend l'image d'une famille, mon épouse et moi-même, Nous sommes unis, on est un couple et nous avons eu des enfants qui sont nés après nous, mais on est tous des êtres humains. On est tous êtres humains, on est tous dans la même famille, on décide de tout ensemble, mais on est trois personnes différentes quand même. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, mais toutes ces personnes sont entièrement Dieu. Dieu n'est pas un vent, une création et un créateur. C'est un Dieu éternel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont éternels. La Bible dit, écoutez ceci, l'éternel dans la Bible c'est le vrai Dieu, Dieu, l'éternel Dieu. Il dit, oracle, parole de l'éternel sur Israël. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. L'Éternel, le vrai Dieu, dit, ils m'ont percé et ils regarderont vers moi et ils croiront en moi, celui qu'ils ont percé. Est-ce que quand Jésus est mort, est-ce que c'est Dieu le Père qui est mort? Non, c'est Dieu le Fils. Mais Dieu le Fils dit, je m'appelle l'Éternel. Donc Dieu le Fils a le même nom que Dieu le Père, il est l'Éternel, il est vrai Dieu. Et puis, ce Dieu, l'Éternel, Yahvé, parfois, les témoins de Jéhovah disent, on s'appelle témoin de Jéhovah, parce que le vrai nom de Dieu, c'est Jéhovah. Alors, c'est plutôt Yahvé, mais c'est son nom personnel. Et donc, on a traduit le mot Yahvé par le mot l'Éternel, c'est-à-dire celui qui a toujours été, il est toujours là, il sera toujours là, il est éternel. Donc, Yahvé, ou le vrai Dieu, il dit, l'Éternel paraîtra, il combattra ses nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et se formera une très grande vallée. Alors, la Bible dit, Dieu descendra sur le mont des Oliviers qui se fendra au milieu et se formera une vallée. Dieu a des pieds? Ben oui. Dieu va descendre sur le mont des Oliviers? Oui. Mais écoutez ceci. Ce n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore descendu sur le mont des Oliviers. Mais quand Jésus est monté au ciel, vous savez de quelle montagne il est parti? Du mont des Oliviers. Et quand il est parti vers le ciel, deux hommes vêtus de blanc apparurent aux disciples et leur dirent, « Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, Jésus, Dieu le Fils, il est parti au ciel depuis le mont des Oliviers, c'est l'ascension. Et les hommes en blanc, des anges, ont dit, « Il reviendra de la même manière. » Il reviendra avec ses pieds se poser exactement d'où il est parti, sur la même montagne des Oliviers. Et il dit, c'est Dieu. Jésus parti, Dieu revient, c'est le même. Jésus est Dieu. La Bible dit, la parole a été faite chair. Donc Dieu est devenu un homme, est devenu un corps physique. Et il est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Un autre passage en Philippiens où Dieu dit ceci. Jésus a existé en forme de Dieu. Alors imaginez que vous prenez à Pâques, vous prenez un œuf au chocolat. Et le chocolatier vous dit, cet œuf n'est pas juste une coque au chocolat, cet œuf est du chocolat massif. Donc il y a du chocolat dans tout l'œuf. Tout est rempli de chocolat, ok? Vous allez dire, cet œuf est un chocolat, la forme, c'est un œuf, mais à l'intérieur, ce n'est que du chocolat. C'est entièrement de chocolat. Ce n'est pas vide, c'est rempli. Eh bien, c'est la même idée. Jésus-Christ existait en forme de Dieu, mais à l'intérieur, c'était aussi Dieu. Donc, il était Dieu, il n'est pas une coquille vide. Il ne dit pas, je viens sous une forme de Dieu, mais je ne suis pas Dieu, c'est un costume. Non, il dit, j'ai la forme de Dieu, mais tout à l'intérieur de moi, tout est Dieu. Il était entièrement Dieu avant de descendre dans la Vierge Marie pour naître à Bethléem. Il était entièrement, complètement Dieu, depuis toujours. Il est devenu un homme, il a pris la forme d'un homme, mais il est resté Dieu. Et il est venu, il a payé pour nos péchés, il a été crucifié, c'était Dieu qui était crucifié. Et c'était l'homme qui était crucifié, les deux. Et parce qu'il était Dieu crucifié, il a pu payer pour tous nos péchés. Si ça avait été un simple homme, il n'aurait pas pu payer pour nos péchés. Mais en tant que Dieu, comme Dieu est infini, il a payé un prix infini pour tous nos péchés. Il est ressuscité, il était toujours Dieu. Il est monté au ciel, il était toujours Dieu. Il n'a jamais été autre chose que Dieu, à travers tout. Oui. Et donc, ça c'est Jésus qui est Dieu entièrement. Alors attention, j'ai dit, nos amis, les témoins de Jéhovah disent, Dieu le Père est le seul Dieu, et un jour, il a créé Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est un cran en dessous. Mais le Dieu de la Bible dit non. Dieu le Fils est la même valeur, la même essence que Dieu le Père. C'est très important. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ils disent, Satan vend. Pourquoi ils disent que Satan vend? C'est parce que le mot esprit, dans le grec, c'est le mot pneuma. C'est quoi pneuma? Ça fait penser à quoi en langue française? Pneuma. Pneumatique. Pourquoi? Parce qu'on met de l'air. Donc le pneuma, c'est le vent. Le vent. Et Dieu, quand il parle de Saint-Esprit, il parle d'un souffle divin. Oui, mais ce n'est pas juste de l'air que l'on pompe dans des pneumatiques. Hein. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Ce Saint-Esprit, il fait quelque chose que l'air ne peut pas faire. Il enseigne, il conduit et il parle. Il dit, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que l'air dans une pompe peut vous parler? Est-ce que l'air dans un pneumatique peut vous enseigner, peut vous conduire? Non. Donc, il emploie le mot pneuma, l'esprit, mais ce n'est pas un vent, c'est une personne. Seule une personne peut parler. Seule une personne peut enseigner, seule une personne peut nous conduire, seule une personne peut annoncer des choses. Ça, c'est le Saint-Esprit. Un jour, Pierre, il a parlé à un couple qui a menti dans l'église. Il leur a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il a dit, tu as menti au Saint-Esprit. Il a dit, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc l'apôtre Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit, tu as donc menti à Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit en Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce qu'on peut attrister? Est-ce qu'on peut attrister le vent? Imaginez que vous sortez dans la rue et il y a le vent d'autant. Et puis, ah, ce vent d'autant, qu'est-ce qui me fatigue? Et quelqu'un dit, attention, le vent d'autant, il est sensible, tu l'as critiqué, le vent d'autant, tu l'as blessé. Vous allez dire, vous êtes fou. Le vent d'autant, c'est un vent. Le vent d'autant n'a pas de sentiment, c'est juste du vent. Mais il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est une personne. On ne peut attrister qu'une personne. Et donc, le Saint-Esprit est une personne. Dieu le Fils est une personne qui est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu le Père est Dieu. Et c'est très important. Dieu n'est pas dans un clocher. Troisième point, Dieu n'est pas dans un clocher. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des églises qu'on pourrait appeler des sectes qui disent... Nous sommes la vérité. Nous. Notre organisation est la vérité. Si vous nous quittez, vous quittez la vérité. Vous entrez dans le mensonge. Les témoins de Jéhovah, si vous avez pris le temps de parler avec eux, de lire leurs livres, ils disent notre organisation est une organisation dirigée entièrement par Dieu. Tous nos écrits sont inspirés par Dieu. Et celui qui a fondé le mouvement, il a dit, si vous lisez la Bible sans lire mes livres, vous ne comprendrez jamais la Bible et vous serez perdu. Vous ne comprendrez rien, vous serez entièrement perdu. Mais il dit, si vous lisez mes livres, même sans lire la Bible, vous aurez de plus en plus de sagesse et vous aurez de plus en plus de lumière. Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Il dit, mes livres sont plus clairs que la Bible. Mes livres vous aideront plus que la Bible. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Le vrai Dieu s'est adressé à nous dans la Bible. Et il veut que nous la lisions. Et la Bible elle-même dit que quand on lit la Bible avec l'aide de Dieu, en voulant plaire à Dieu, en voulant obéir à Dieu, le Saint-Esprit nous aide à la comprendre. C'est son rôle. Donc, on ne peut pas du tout dire Dieu est dans telle ou telle église, c'est eux seuls qui ont la vérité. Il y a une autre église qui dit elle seule tient la vérité, c'est l'église de Rome, c'est-à-dire l'église catholique romaine. Il y a un des prêtres de l'église catholique romaine qui a vécu à peu près au 2e, 3e siècle, qu'on appelle Saint Cyprien. Vous avez entendu parler de Saint Cyprien? Il y a des quartiers entiers, le quartier de Saint Cyprien, rue Saint Cyprien, c'est très connu. C'était un monsieur qui s'appelait Cyprien, et il a dit, hors de l'église, point de salut. Autrement dit, si vous n'êtes pas dans notre église, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça voudrait dire, Dieu a établi notre église, et c'est par notre église que vous serez sauvés. Donc, il y a beaucoup de gens en France qui disent, j'étais baptisé et confirmé à l'église catholique. Donc, je serai sauvé, puisque je suis dans son église. Le prêtre m'a donné l'hostie, il a changé en corps du Christ, je reçois le Christ. Si je reçois le Christ régulièrement, j'ai la vie du Christ en moi. Mais s'il n'y a pas de prêtre pour changer l'hostie en corps du Christ, je ne peux pas recevoir le Christ. Ça dépend entièrement du prêtre et de l'église. Est-ce que c'est bien ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne, il y a un seul Dieu. Le Dieu de la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui a donné sa vie en rançon pour tous. Le Dieu de la Bible dit, si vous voulez me connaître, il faut obligatoirement passer par Jésus-Christ. Pas par une église, par Jésus-Christ, uniquement par le Fils de Dieu, qui est venu, qui a payé pour vos péchés, qui est ressuscité, qui remonte au ciel. C'est lui qui peut vous permettre de connaître Dieu. Jésus a dit, je suis moi-même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, celui qui dit, moi, je veux connaître le Dieu de la Bible. Je vous soumets pour terminer. Il y a un seul Dieu. Si Dieu est infini, le créateur du monde, le créateur de l'univers, il est tout puissant, il est infini, il est infiniment puissant, infiniment sage, infini en tout. Combien de dieux infinis peut-on avoir dans l'univers? En ça, il ne faut pas avoir deux ou trois dieux infinis. Il n'y a pas de place pour trois dieux infinis. En seul, ce Dieu infini qui se révèle à nous avec amour, par la Bible, il dit, pour me connaître, il faut passer par une seule personne, par Jésus-Christ. Pas par une église, pas par un prophète, uniquement par lui. Et donc, la Bible dit, où se trouve Dieu? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, le Dieu de la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui dit, repens-toi. Il nous ordonne de nous repentir. Il nous ordonne de venir à lui et de croire en lui. Mais il dit, je plaide Nous vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Entre nous et Dieu, il y a le péché, notre péché. Et Dieu dit, je ne peux pas vous accepter comme ça avec vos péchés. Je ne peux pas, je suis saint et pur. Je ne peux pas admettre le péché dans ma présence. Et pourtant, je vous aime et je veux vous sauver. Mais Christ a payé pour vos péchés. Je vous offre le pardon. Il faut simplement le croire et le prendre. C'est un don que je vous fais. C'est gratuit. Mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui nous a créés. C'est celui qui nous aime. C'est celui qui à payer pour nos péchés. Et c'est celui qui nous invite à venir à lui, qui nous supplie de venir à lui pour être sauvés. Quelqu'un dit, je ne veux pas, je ne viendrai pas. Il ira en enfer. Il ira loin de Dieu pour l'éternité. Dieu ne peut pas l'accepter. Il ira loin de Dieu. Dans un lieu horrible. Mais il ne va pas parce que Dieu veut qu'il aille. Il va parce que lui ne veut pas le salut de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Nous irons en enfer. Si quelqu'un va en enfer, il va parce que lui ne veut pas le salut de Dieu. Parce que Dieu voulait le sauver. Dieu voulait lui donner le pardon. Ça, c'est le Dieu de la Bible, un Dieu d'amour.